un guide pratique pour aider à la formation des assemblées de l'Église du Christ, là où il n'en existe pas. Comment fonder une assemblée de l'Église du Christ chez vous, partie 1. Introduction. L'Église du Christ. Celle dont parlent les Saintes Écritures. Si l'Église du Christ n'existe pas dans votre pays, votre ville ou votre village, vous devriez en organiser une sans tarder. Et elle peut même débuter chez vous. À l'heure actuelle, le besoin le plus pressant est de persuader tous les hommes d'abandonner une fois pour toutes les sectes et divisions humaines qui ont entravé l'œuvre du Christ pendant si longtemps. A majuscule. L'échelle mondiale, participons tous à l'effort pour restaurer la seule et vraie Église du Christ. C'est un fait fondamental, pour être ce qu'étaient les premiers chrétiens, il nous faut faire tout simplement comme ils ont fait. Ce n'est donc pas compliqué. Cette brochure a pour but de vous proposer quelques conseils pratiques à suivre. Elle ne constitue ni un credo ni une confession de foi. Elle n'émane pas non plus d'un concile ou d'une hiérarchie quelconque. Elle est destinée à suggérer les moyens, grâce auxquels tous ceux qui, désirant prendre les Saintes Écritures comme seule base, pourront former des assemblées indépendantes et autonomes de chrétiens. Celles-ci, en suivant fidèlement les ordonnances du Seigneur, gardent leur identité avec le Christ uniquement par des rapports fraternels, avec ceux qui partagent la même foi et la même pratique. Qu'est-ce que la véritable Église du Christ? L'Église est l'ensemble de ceux qui sont appelés des ténèbres à son admirable lumière, 1 Pierre 2.9, elle est un organisme spirituel qui comprend tous les sauvés du monde entier. L'Église du Christ peut être identifiée d'une façon certaine. Ses marques distinctives et ses caractéristiques doctrinales sont si clairement présentées dans le Nouveau Testament que personne ne doit s'y tromper. Elle peut donc être reconnue au milieu de cette grande foule de sectes et de groupements religieux, bâtis sur le fondement de préceptes et pratiques humains. Le Seigneur n'a établi qu'une seule Église. Il savait parfaitement bien que tous les hommes pouvaient être sauvés dans une seule Église. Pourquoi en aurait-il établi plusieurs? Mais l'homme, qui souvent est mécontent de l'œuvre de Dieu, a voulu transformer à son gré l'Église du Christ. Des pratiques que la parole de Dieu n'autorise pas ont été ajoutées. D'autres choses que Dieu exige ont été délaissées. Dans son orgueil, l'homme ne s'est pas gêné pour remplacer ce que Dieu a ordonné pour son Église par autre chose qu'il estime être meilleure. Tous les efforts des hommes ont abouti à la création d'un vaste système sectaire auquel on a greffé le nom du Christ, afin de rendre toutes ces transformations plus acceptables. Mais rien n'a pu changer la véritable Église du Christ. Matthieu 16:2.18, celle-ci demeure toujours invariable, étant perpétuée par la parole de Dieu. La véritable Église du Christ renferme encore, comme jadis, tous ceux qui sont instruits fidèlement selon la parole de Dieu, et qui ont cru à l'évangile du Christ, qui se sont repentis de leurs péchés, qui ont confessé publiquement que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, qui ont été baptisés conformément à l'enseignement des Écritures et pour la rémission des péchés, qui rendent ensuite à Dieu le culte qu'il prescrit, sans rien y ajouter, sans rien n'en retrancher, sans y apporter quelques modifications, que ce soit, qui expriment désormais leur amour pour le Seigneur par un service loyal et une totale soumission à sa volonté. Comment reconnaître la volonté de Dieu? Dieu révèle-t-il sa volonté à l'homme? L'Ancien Testament contient l'expression de la volonté de Dieu pour ceux qui vécurent avant la venue du Christ. Les ordonnances, les cérémonies religieuses et les offrandes faisaient partie de la loi mosaïque. Mais la loi de Moïse fut accomplie avec la mort de Jésus. Colossiens 2h14, 15, la nouvelle alliance, c'est-à-dire la loi du Christ, entra alors en vigueur. Hébreux 9h15, 10, 9 à 10, nous ne sommes plus régis par la loi de Moïse. Le Nouveau Testament est désormais notre règle, parce qu'il contient tout l'enseignement de Jésus. Jean 1h17. Quand vous lisez le Nouveau Testament, c'est Dieu qui vous parle, directement et individuellement. Ceci est important, parce que nous allons nous servir du seul livre qui traite en détail et avec autorité de l'Église, le Nouveau Testament. Il ne s'agit pas d'ignorer ou de mépriser l'Ancien Testament, mais si nous désirons connaître l'Église de Jésus-Christ, nous devons nous y instruire selon le Nouveau Testament. Le Nouveau Testament est l'expression de la volonté de Dieu et se voit dans le fait qu'il nous défend formellement d'aller au-delà de ce qui est écrit, 1 Corinthiens 4, 6, personne ne doit annoncer un autre évangile que celui qui fut proclamé par les apôtres. Galates 1, 8,9, une interdiction solennelle s'adresse à celui qui, par Rapport à la parole de Dieu, Osrehouan. Retranché, Apocalypse 22h18, 19, Dieu nous met en garde contre les faux prophètes venus dans le monde, 1 Jean 4:11, il limite nos rapports fraternels à ceux qui demeurent dans la doctrine du Christ. 11 Jean 9 à 11. Le Nouveau Testament nous transmet les instructions de Dieu pour notre époque. Dans son épître aux Thessaloniciens, l'apôtre Paul loue les chrétiens de cette ville, de ce qu'ils avaient accepté la parole qui leur avait été annoncée. Il leur dit, la parole de Dieu, que nous vous avons fait entendre, vous l'avez reçue, non comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle est véritablement, comme la parole de Dieu. 1 Thessaloniciens 2h13-15. La volonté de Dieu nous est donc révélée par la Bible. Aussi il n'est pas étonnant d'entendre dire l'apôtre Paul, la foi vient de la parole de Christ, Romains 10h17. Dieu ne parle plus de vive voix à l'homme. Il lui parle à l'heure actuelle uniquement par le moyen des Écritures. La Bible nous transmet sa volonté complète et définitive. Mais, il faut dispenser droitement la parole de Dieu, afin de découvrir en quoi et comment elle s'applique à nous aujourd'hui. Il faut être un ouvrier qui dispense droitement la parole de la vérité, 11 Timothée 2h15. En réalité, la Bible renferme 66 livres, écrits par une quarantaine d'hommes à travers près de 1500 ans. Ces ouvrages furent rédigés sous l'inspiration de Dieu. 11 Timothée 3h16, 17, quelques-uns d'eux parlent du peuple de Dieu qui vécurent sous la loi mosaïque. D'autres traitent des lois de cette époque-là. Certains renferment des prophéties concernant le Christ et son Église. La Bible se divise en deux parties distinctes. 1. L'Ancien Testament, qui traite de la période entre la création du monde jusqu'à environ 400 ans avant la naissance de Jésus, et 2. Le Nouveau Testament, qui répond à la question « Que faut-il faire pour être sauvé ?» point et qui dirige le chrétien dans sa foi et dans sa pratique. Le Nouveau Testament s'ouvre avec 4 biographies de Jésus-Christ, écrites par Matthieu, Marc, Luc et Jean. Celles-ci racontent la naissance de Jésus, ses premières années, le commencement de son ministère public, le choix de ses apôtres, sa promesse de bâtir son Église, son procès, sa crucifixion, l'assurance de son retour, l'ordre à ses apôtres de prêcher l'Évangile à toute la création, et finalement, son ascension. Le but principal de ces livres est de susciter et d'éveiller la foi en Christ. Jean 20h30-31. Le livre suivant, les traits de l'activité des 12 apôtres, désignés par Jésus pour continuer son œuvre sur la terre, après son retour au ciel. Il nous explique la manière dont les apôtres ont proclamé l'Évangile, ont transmis les conditions du salut, ont établi des assemblées de chrétiens un peu partout, pour les fortifier ensuite. Le livre des Actes montre comment ceux qui vivaient au premier siècle de notre ère rendaient leur culte à Dieu. Après avoir été sauvés et ajoutés à l'Église, il sert de modèle pour l'organisation de l'Église, pour la conversion et pour la prédication de l'Évangile. Le reste du Nouveau Testament se compose de lettres adressées tantôt à des chrétiens individuels, tantôt à des assemblées locales. Celles-ci exposent, par des préceptes et des exemples, comment vivre en tant que chrétien et comment travailler et glorifier le Seigneur dans l'Église. Éphésiens 3h21. L'étude de la Bible est une façon très élevée d'adorer Dieu. Par l'étude des Écritures, nous témoignons de notre profond respect pour la parole de Dieu. C'est par ce moyen que Dieu parle à l'homme. Nous parvenons, par la méditation de sa parole, à connaître sa volonté. Nous apprenons en même temps ce qu'est réellement son Église, et comment former une assemblée locale. Voilà, en effet, ce qui a été fait par des milliers de personnes depuis environ 2000 ans.